Merci Seigneur pour cette louange. Merci parce que tu ouvres les cœurs. Et Seigneur, je te demande maintenant d'ouvrir notre intelligence à ta parole. Que nous puissions grandir dans ta parole, Seigneur. Que chaque fois que nous puisons dans la Bible les mots, nous arrivions à trouver ce que tu veux pour nous. Merci Seigneur. Alors je vais continuer mon message avec le meilleur est devant vous. Et on avance. Et le sujet aujourd'hui, c'est vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul. Alors je vais commencer le message sur un souvenir personnel. Fabrice Martorano a commencé par un souvenir. Et je me suis dit, il faut que je prenne un souvenir qui m'est propre. Alors, c'est un souvenir qui remonte à 45 ans. Et c'était en 1972, en 1973, je ne me souviens plus trop. Mais j'étais en vacances et j'avais 11 et 12 ans. Et à l'époque, il y avait ma petite sœur, mais c'est elle qui faisait... je dirais partenaire de jeu quoi. C'était ma petite sœur, elle a un an de différence. Et on était un après-midi en Dordogne et mes parents avaient décidé d'aller sur la rivière, la Dordogne. Et on avait trouvé un petit endroit où il y avait du monde, il faisait chaud, c'était en août. Et on est arrivé sur un bras de la Dordogne assez large, une trentaine de mètres environ. Et à l'endroit où on était, c'était plat, des arbres ombragés, un peu de soleil. Et une trentaine de mètres plus loin, une falaise, comme ça. Et environ à 20 mètres, il y avait une espèce d'îlot de 5 mètres sur 2 à peu près, tous des cailloux blancs. Et de temps en temps, il y avait des nageurs qui venaient, qui s'arrêtaient là et qui repartaient. Et donc, il y avait comme un défi pour ma sœur et moi, aller là-bas, à une vingtaine de mètres plus loin, sur cette petite îlot. Et pour moi, je pense que c'est ma sœur qui a dû avoir cette envie et me l'a communiqué. Parce que moi, là-bas, là, à 20 mètres, je suis un mauvais nageur, je suis pas très bon. Et il y a quand même c'est quand même une rivière, quoi, il y a du courant un petit peu, quand même. Donc, nous voilà partis. Ça y est. On arrive, et voilà, ça y est, on est sur ce petit îlot. Moi, je suis un peu fatigué. Et puis, quand on se retourne, enfin, qu'on regarde cette façade, cette falaise, sur la droite, il y avait la rivière qui coulait, mais là, vraiment, très très rapidement, mais sur une épaisseur pas très large, il y avait, allez, 10 cm, 15 cm d'eau, et il y avait un très gros débit. Et ça tournait comme ça, et ça venait se projeter contre la roche avec un gros bouillon. Et ça, c'était impressionnant, quoi. Mais on a eu une bonne idée, ma sœur et moi, d'aller dans ce courant. Il n'y avait pas beaucoup d'eau, c'était super. Et on est partis, tous les deux, on est partis. On s'est accrochés sur des branches, il y avait des branchages qui étaient là, des arbres accrochés à la falaise. Et moi, courageux comme je suis, je dis, attends, je vais me mettre sur cette branche, accrocher ma sœur, l'emmener. Mais c'était impossible. Impossible. Et je me voyais arriver sur ce... Quand à un moment donné, on allait lâcher, se projeter sur la paroi. Et puis, j'en sais rien. Personne ne voyait parce qu'on était à 30 mètres. On était accrochés, on avait beau crier, on n'en entendait pas. Il y avait du courant, il y avait trop de... Et puis il y avait des gens qui étaient là, qui criaient aussi. Et c'est ma petite sœur qui, d'un seul coup, elle se lâche, et hop, elle arrive en tangente, entraînée par le courant, mais elle arrive sur cette petite île, et elle m'encourage, Rémi, tu peux y arriver. Mais moi, je m'étais bien épuisé, j'étais très fatigué. Et en fait, je me suis retrouvé un peu seul sur cette branche. Bien sûr, il y avait ma petite sœur qui m'encourageait, vas-y, tu peux y arriver. Mais j'étais seul. Et j'avais en face de moi le gros bouillon qui allait m'entraîner, peut-être. Plus beaucoup de force. pour aller sur cette île. Bon, j'y vais quand même, parce que je me dis, de toute façon, il faut y aller. Bon, j'ai réussi. Mais voilà, c'est ce que je voulais faire sentir, c'est cette solitude que parfois... Non, je suis pas mort. Mais il y avait cette solitude sur cette branche où j'étais... Il fallait prendre une décision et c'était pas évident. Alors, voilà, la question, elle vous est retournée, mais personnellement, qui n'a pas été pris dans cette froideur de l'épreuve ? Personne pour nous tendre la main. Peut-être même un sentiment d'être délaissé. Pourtant, notre Père Céleste est près de nous. Il ne nous a pas laissés orphelins. Alors, on va prendre la parole de la Genèse. Genèse 1, versets 1 à 2. C'est un verset que vous connaissez très bien, des versets que vous connaissez très bien. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était un chaos, elle était vide. Il y avait des ténèbres au-dessus de l'abîme et le souffle de Dieu tournoyait au-dessus des eaux. Nous voyons dans cette parole que l'Esprit de Dieu, tournoyait, planait au-dessus de nous, planait au-dessus des eaux, de la création. Dieu était là, malgré l'obscurité. En fait, Dieu connaît nos ténèbres. Il connaît vos larmes. Il ne vous abandonne pas. Son esprit est là. Il plane au-dessus de nos vies et au moment choisi, à l'heure fixée, Dieu dira pour vous, pour chacun d'entre nous, que la lumière soit. Et là, les ténèbres laisseront place à la lumière. C'est un encouragement. Faites confiance au Seigneur. Même si tout autour de vous est informe et vide, réalisez qu'aujourd'hui, son souffle, son esprit est là. Qu'il tournoie et qu'il plane au-dessus de nos vies. Dieu ne vous a pas oublié. Il vous appellera à son heure et vous ouvrira la bonne porte. Je vais prendre un exemple maintenant. Il y a un bijou qui est très apprécié dans le monde. Sa fabrication est riche d'enseignements, car ce joyau magnifique n'est autre que l'épreuve de la vie d'une huître. À la base, c'est un grain de sable qui se trouve par erreur dans le corps de l'huître. Et pour se défendre de cette intrusion, l'huître fabrique la nacre. Et elle enveloppe le grain de sable et qui, au bout d'un moment, fabrique une magnifique perle. Eh bien, nos attentes sont parfois comme des grains de sable, comme pour l'huître. Elles viennent nous empoisonner la vie. Mais, si nous laissons le Saint-Esprit faire son œuvre en nous, alors naîtra une perle de grand prix pour notre vie. Dans nos vies, nous pouvons être abattus, mais pas perdus. Actuellement, il y a une maladie qui fait des ravages dans le monde entier. C'est le burn-out. Syndrome d'épuisement. La personne est littéralement consumée. Alors, le burn-out a de nombreuses causes. À vouloir trop en faire, à courir partout, pour avoir toujours plus. Être le plus grand, le plus beau, et que dire de ceux qui subissent une pression malsaine de la part d'un patron ou d'un conjoint. C'est alors que l'ennemi de votre âme vient vous écraser, vous désemparer, vous êtes perdu. En cherchant toutes sortes de choses, en étant abattu par toutes sortes de raisonnements. Je vais passer maintenant une petite parabole une parabole moderne. Alors voilà, c'est la scène, c'est le diable qui se retire des affaires, si c'était possible, hein. Et il décide de vendre tous ses outils. Il va les vendre aux enchères. Et à l'heure de la vente, tout était là, exposé. Ah, c'était affreux. Un spectacle affreux à voir. Abominable. Il y avait là, côte à côte, la haine, la jalousie, la débauche sexuelle, le mensonge, l'hypocrisie et d'innombrables autres instruments de destruction. Et un peu plus loin, il y avait un autre outil d'apparence insignifiante, mais au tranchant bien aiguisé. Et quelqu'un interpella le diable. Il y avait du monde, hein. Il y avait du monde qui était intéressé par tout ça. Il y en a un qui dit, hé, diable, mais à quoi il sert cet outil-là qui est là-bas? Pourquoi t'as mis un prix aussi élevé? Le diable lui dit, ah, il s'agit du découragement. Et cet outil, je l'utilise beaucoup, beaucoup plus que les autres. Et je l'utilise notamment chez certains chrétiens, par exemple, qu'on n'arrive pas à avoir parce que mes outils traditionnels, classiques, ça ne marche pas. Donc j'utilise le découragement. Voilà. Et avec le découragement, j'arrive à trouver près des chrétiens. Il rentre absolument partout. Fin de l'histoire. Alors, si chaque chrétien a ses faiblesses, si chacun d'entre nous avons des faiblesses, oui, et il y a une faiblesse que nous avons en commun, c'est le découragement. C'est vrai qu'on prie, on est sans cesse en train de faire des prédications ou des choses, voilà, on demande au Seigneur des choses, et ça n'arrive pas. Si le Seigneur, il agit, en son temps viendra les choses. Mais pour nous, ça peut être un découragement, et il y en a un, il utilise l'outil du découragement. Et tous, on y passe, les grands personnages de l'Église, de la Bible, pardon, n'y ont pas échappé. Il y a Élie, David, Jérémie, Paul, et puis bien d'autres, hein. Bien, voilà. Et combien d'entre nous n'avons pas été tentés aussi d'abandonner, de baisser les bras? Et Paul est conscient que nous sommes des vases d'argile. C'est pourquoi il attire notre attention, non pas sur nos faiblesses, mais sur la puissance du Saint-Esprit. On va lire maintenant 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 7. Et on va garder ce texte parce que je vais y revenir plusieurs fois. Donc 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 7. Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Ce trésor, c'est le Saint-Esprit. Nous le portons en nous et nous sommes des vases d'argile, des vases de terre. Et ce Saint-Esprit que nous portons, c'est pour que soit manifestée la puissance extraordinaire de Dieu, pour que cette puissance de Dieu se manifeste en nous et non pas par nos propres forces. Et cela nous libère. Malgré les oppressions, malgré les épreuves, réalisons que nous ne sommes pas seuls. Le Saint-Esprit est là, en nous. Il marche à nos côtés. Il nous console, nous défend, nous redonne de l'espoir. On va continuer la suite de 2 Corinthiens, chapitre 4, versets 8 à 9. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non perdus. Après, on va au verset 16. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et alors même que notre homme intérieur se détruit, notre homme extérieur se renouvelle de jour en jour. D'accord, c'est l'inverse. C'est d'abord intérieur avant ou extérieur? Ah oui, d'accord. Oui, oui, oui. Notre homme extérieur se détruit et notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Bravo. Merci. J'ai mes yeux qui ont... Mes yeux qui... Alors, une autre façon de dire ce verset. Nous sommes accablés de toutes sortes de détresses et cependant jamais écrasés. Nous sommes désemparés mais non désespérés. Persécutés mais non abandonnés. Abattus mais non perdus. Voilà pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre être extérieur se détériore peu à peu, intérieurement, nous sommes renouvelés de jour en jour. Oui. Merci Seigneur. Nous avons le privilège de vivre avec le Saint-Esprit. Vous est-il déjà arrivé d'envier Pierre, Jean, Jacques, les apôtres, pour le privilège qu'ils avaient de voir Jésus vivant? Peu avant de partir, Jésus enseigna à ses disciples qu'il donnerait un autre consolateur. Et Jésus dit, « Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Ça, c'est dans Jean, chapitre 14, verset 15. Je vais faire un petit peu de... décortiquer un petit peu ce qui a été écrit en grec à l'époque sur ce texte. Dans le grec, pour parler de l'autre, il y a deux mots utilisés. Il y a « hétéros » qui signifie « un autre différent » ou « homoios » voulant dire « un autre pareil ». Et dans le texte qui est utilisé par Jean, le mot est différent. Il utilise le mot « allos », et ce qui signifie « identique en tout point, aucune différence possible ». Alors je vais prendre un exemple pour bien situer les choses, avec des livres. Donc deux livres hétéros. Ils n'ont pas le même format. C'est deux livres différents. Pas la même histoire, pas la même couleur de couverture, pas le même nombre de pages, etc. Ce sont bien deux livres, mais ils sont différents, ils sont hétéros. Par contre, s'ils sont pareils, même auteur, même histoire, même format, même année de parution, etc. On parle de deux livres pareils, ils sont homos. Alors maintenant, il y a une différence avec allos, qui voudrait dire que non seulement les livres sont pareils, même histoire, même format, même couleur, année de parution, mais en plus, ils seraient cornés au même endroit, surlignés avec des mêmes mots, les mêmes couleurs, sur les mêmes mots, avec la même puissance du surlignage sur le même mot. Autant dire que tout ça, c'est impossible. Lorsque Jésus enseigne à ses disciples, il leur dit qu'il ne va pas envoyer un autre différent, un hétéros, non, ni un autre pareil, avec quelques variantes. Non, il va envoyer celui qui est identique à lui en tout point, à l'os. Alors il nous faut réaliser que nous n'avons pas à envier les disciples, parce que le Saint-Esprit qui habite en nous est le même qu'hier et qu'aujourd'hui. Et allos, c'est le allos de Jésus, l'image de Jésus, la même chose. Amen. Donc nous n'avons pas envié Pierre, Jacques, Paul et les autres disciples. Aujourd'hui, réalisons le privilège que nous avons. Le Seigneur lui-même, par son Esprit, est en nous. Comme Jésus enseigna ses disciples, le Saint-Esprit est en nous pour nous communiquer la bonne direction, pour nous enseigner, nous consoler ou nous défendre. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. On va changer de sujet. J'aime me promener dans des beaux endroits avec Sabine et avec nos enfants. Et Sabine, elle a organisé la semaine dernière une petite balade. Et nous sommes allés au Cap Blanc-Nez. Et c'était magnifique. Un grand soleil, beaucoup de vent. Ouf, ça souffle, on a été surpris. Beaucoup de vent là-bas. Et il n'y avait pas trop de brume, et donc on pouvait voir au loin les côtes anglaises. Ouais, c'était bien. Les bateaux, l'eau était magnifique, des couleurs changeantes en fonction des nuages qui passaient. Enfin, c'était super. Et puis on fait des rencontres inattendues aussi. Quand on est sur ce chemin, là, ces chemins, on fait des rencontres inattendues. Et nous avons rencontré Amandine avec son mari, Samuel, et les enfants. Naomi et Emma, on a échangé, c'était bien. Et par moments, je bénissais Dieu pour sa création, pour ses belles rencontres. Merci Seigneur. Et nous voyons dans la Bible qu'un jour, Dieu va inviter un homme, au nom d'Ézéchiel. Et avec Ézéchiel, ils vont faire une randonnée particulière. Non pas sur un site prestigieux, pas dans un domaine classé pour sa faune ou sa flore, mais dans un cimetière. C'est un drôle d'endroit pour une balade. Le désir de l'Éternel est qu'Ézéchiel puisse regarder la réalité en face afin de créer, de relever, de restaurer ce qui est desséché. Notre vie passe comme un éclair. Et par notre nature humaine, nous préférons nous enivrer de films, de Facebook et bien d'autres choses, plutôt que de faire face à notre squelette, à notre réalité. Aujourd'hui, Dieu nous pose cette question. Fils ou fille d'homme, ces os revivront-ils ? C'est dans Ézéchiel 37, verset 3. Pensons-nous que Dieu soit capable de restaurer notre couple, notre situation financière, notre relation avec nos enfants, notre travail, notre ministère? Croyons-nous que Dieu est grand et qu'il a le pouvoir de faire revivre ce qui semble mort aux yeux des hommes? Moi, je le crois. Et vous aussi. À ceux qui ont cette espérance, dressez-vous devant ce qui est mort et prophétisez en appelant le Saint-Esprit, le halos de Dieu, de Jésus, dans notre situation, dans votre situation. Dieu me dit, prophétise au souffle, prophétise fils d'homme et dis au souffle, ainsi dit le Seigneur, l'Éternel. Esprit vient des quatre vents et souffle sur ses tués et qu'ils vivent. Appelez le souffle, c'est-à-dire le Saint-Esprit, appelez-le dans votre situation afin que la vie puisse remplacer les morts, la mort. Peu importe la grandeur de la vallée des ossements, Dieu est avec vous, prêt à accomplir un grand miracle. Pour conclure, quand nous prions dans la volonté divine, en accord avec la Bible, alors cette parole devient créatrice par la puissance du Saint-Esprit. Amen. On va prier maintenant. Alors, c'est une prière que j'ai faite au premier à la première personne, donc c'est je. Donc vous pouvez vous l'approprier comme vous le sentez. Jésus, je te remercie pour tout ce que tu as accompli à la croix. Tu nous as délivrés de tout péché. Merci Jésus, car je crois que même si autour de moi tout est informe et vide, je sais qu'aujourd'hui ton esprit est là dans mon cœur. Merci Jésus, car malgré les oppressions, les épreuves, je sais que je ne suis pas seul, tu es là. Merci pour ce privilège de vivre avec toi. Merci car toujours tu me relèves. Chaque jour j'appelle le Saint-Esprit et je prophétise au souffle. Ainsi dit le Seigneur, l'Éternel, Esprit vient des quatre vents et souffle sur ces tués et qu'ils vivent. Je sais que peu importe la grandeur de la vallée d'ossements, Dieu est avec moi, prêt à accomplir un grand miracle. Amen.